7h18, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Thierry.
Bonjour
Garcin.
Marc.
Et aujourd'hui, le sujet, c'est l'affrontement Google-Chine et Chine-États-Unis et la dimension politique de cet affrontement avec votre invité Philippe Moreau-Defarge, chercheur à l'IFRI, co-directeur du rapport Ramsès.
Voilà, bonjour Philippe Moreau-Defarge.
Bonjour Thierry Garcin.
Oui, alors évidemment, dimension géopolitique importante, l'affrontement Chine-États-Unis est plus complexe d'ailleurs qu'il n'y paraît, parce que Google est dans une double contradiction. Il avait accepté il y a quelques années la censure sélective des autorités chinoises, mais il vient de condamner à la mi-janvier les attaques orchestrées par la Chine, dit-il, pour neutraliser ou interdire la consultation de sites estimés déstabilisateurs ou obscènes. Cet adjectif d'obscène est intéressant parce que l'obscénité n'est pas précisée ou n'est pas définie par Pékin. Et Google a menacé de se retirer de Chine pour bien vite proposer des mesures accommodantes. La politique de la chaise vide profiterait à son concurrent chinois, Baidu, si ça se prononce comme ça, qui détient 60% du marché. Quel crédit, ou plutôt quelle ampleur accordé à ce dossier?
Je crois qu'il faut considérer que c'est d'abord un dossier économique et je crois qu'il faut séparer véritablement, le rapport entre Google et la Chine et ses concurrents chinois, c'est un niveau, et puis le rapport entre l'État chinois et l'État américain, c'est deux choses différentes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question qu'on a tendance à se poser, c'est est-ce que par l'administration Obama va intervenir en faveur de Google? Certainement pas, je crois que l'administration Obama ne fera rien, donc Google ne peut pas compter sur l'administration Obama. Il faut que Google se débrouille, je dirais, avec l'environnement juridique et politique de la Chine. C'est difficile. D'ailleurs, on comprend pourquoi Google est devenu accommodant. Le marché chinois, c'est 1,2 milliard d'habitants.
Et
quand on regarde les chiffres de croissance d'utilisation d'Internet en Chine, c'est phénoménal. C'est un des premiers marchés du monde. Donc Google ne peut pas quitter la Chine comme cela. Donc Google va donner la priorité à ses objectifs commerciaux sur des objectifs politiques.
Alors 350 millions environ d'internautes, on voit l'importance commerciale de ce bras de fer. Et on a l'impression d'ailleurs que comme pour les zones courtes à destination de l'ancien bloc de l'Est, du temps qu'il existait, on a l'impression que c'est un peu peine perdue à long terme, ce genre de bataille.
Non, ce n'est pas une peine perdue. Non, si vous voulez, le vent de l'histoire souffle clairement en faveur de Google. Si vous voulez, la Chine a fait un choix économique d'ouverture, de privatisation, de société de consommation. Elle est en plein là-dedans. Bon, donc le gouvernement chinois, qui est à juste titre très inquiet, n'oublions pas que le gouvernement chinois est sur un baril de poudre. La société chinoise est en pleine transformation avec des problèmes d'emploi, de chômage énormes. Donc il y a une inquiétude énorme des gouvernements chinois et ils essayent de freiner la vague. Il est clair que Google, je dirais pas Google, mais disons la circulation de l'information sur Internet va gagner la partie. Donc on voit bien que le problème de Google, c'est pas seulement de prendre des prises de position politiques, de dire je n'admets pas que la Chine me censure, c'est de prendre des prises de position commerciales, c'est-à-dire de rester présent sur le marché chinois. Mais à terme, attendez, le chiffre de 350 millions, ça veut dire que dans un an, il y aura 500 millions. Dans deux ans, il y aura 600 millions. C'est clair que ce n'est pas seulement un chiffre à un moment donné, c'est une croissance phénoménale du marché chinois de consommation d'Internet.
Alors les spécialistes disent aussi que c'est important aussi d'un point de vue commercial à cause de toutes les données qui arriveront directement sur les téléphones portables. C'est pas seulement l'écran d'ordinateur.
Vous avez tout à fait raison. Non, c'est clair que c'est un marché trop énorme. Et là, on voit bien qu'il y a un bras de fer alors entre, je dirais, Google et, comme vous l'avez cité, son concurrent chinois. Et là, il est possible que l'équilibre entre l'État chinois et les concurrents chinois et Google et l'État américain ne soit pas le même. C'est clair que la Chine est extrêmement nationaliste, qu'elle veut défendre son marché, qu'elle veut défendre ses entreprises, qu'elle veut prouver que ses entreprises peuvent exister à l'échelle mondiale. Donc, je dirais, le bras de fer, il est plutôt entre Google et les concurrents chinois de Google, plus qu'entre les deux États. Alors, cela dit, il y a le problème géopolitique du rapport entre les deux États, c'est-à-dire très simplement la concurrence entre celui qui est encore le premier mondial, c'est-à-dire les États-Unis, et celle qui veut devenir le premier mondial, c'est-à-dire la Chine. Et c'est clair que là, il va y avoir, dans les années qui viennent, de grandes difficultés dans la relation États-Unis-Chine.
On le voit d'ailleurs parce que la Chine, effectivement, dénonce l'ingérence dans les affaires intérieures, dans ce dossier de Google, et puis elle dénonce aussi la volonté d'imposer les valeurs occidentales. Alors, c'est là où quand même la Chine peut paraître relativement isolée quand même sur le plan géopolitique à long terme.
Ah non, c'est là aussi le combat sur les valeurs n'est pas si simple parce que la Chine au fond va chercher, alors si vous voulez, la Chine va chercher à rallier l'Asie. C'est clair qu'une partie de l'Asie, notamment prenez les pays d'Asie sud-est, prenez Singapour, prenez la Malaisie, toute une série de pays adhèrent à cette vision des valeurs asiatiques, de dire
et des valeurs collectives.
Nous sommes capables d'exister avec nos propres valeurs face à l'Occident. il va y avoir un bras de fer très dur sur ce jeu des valeurs. Étant entendu que c'est un jeu tout à fait compliqué, ça ne veut pas du tout dire que les Asiatiques ne vont pas s'approprier une partie des valeurs occidentales, mais donc ils vont se servir des valeurs occidentales en fonction de leur démarche asiatique.
Et d'une façon beaucoup plus générale, entre les États-Unis et la Chine, donc on l'avait vu à un moment donné lors du sommet sur le climat de Copenhague en décembre dernier, il y a des collusions d'intérêts, mais des alliances à front renversé en même temps.
Oui. C'est clair que les États-Unis et la Chine ont un intérêt commun très fort pour le moment. C'est que le système mondial reste relativement stable. C'est vrai que les deux pays sont liés par un souci de stabilité. Et pour une raison très simple, n'oubliez pas que le dollar américain est largement détenu par la Chine. Et la Chine n'a pas intérêt à ce que le dollar américain s'effondre. Donc il y a un intérêt commun très fort. Cela dit, il y a une rivalité extrêmement forte entre qui sera le numéro un. Et à Copenhague, c'est ce qui s'est passé. C'est que Obama a voulu donner des leçons à la Chine, et évidemment, la Chine a répondu, je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. C'est moi qui déciderai ce que je fais. Et on voit bien ce jeu qui va être très difficile, dans lequel, évidemment, l'administration Obama est obligée d'être de plus en plus prudente et de donner de moins en moins de leçons. Parce qu'elle sait que si elle donne des leçons à la Chine, elle rend encore plus difficile son rapport avec Pékin.
Alors que penser justement de cette formule qu'on a utilisée il y a peut-être quelques mois de G2, c'est-à-dire sur le modèle G8, G20, etc.
Vous savez, d'abord le G2, ça évoque tout à fait la relation États-Unis-Union soviétique à l'époque de la guerre froide. Il faut rappeler que ce G2, si jamais il existe, c'est autant une relation de coopération qu'une relation de rivalité. Il faut rappeler que le G2 États-Unis-Union soviétique, c'était une rivalité à mort entre les deux États, l'Union soviétique qui est morte. Je dirais que le G2 États-Unis-Chine existera sous une certaine forme, mais il faut le percevoir à la fois, il faut le percevoir comme un couple conflictuel, où d'un côté, l'on gérera ensemble les affaires du monde contre les autres, pour s'imposer face aux autres, mais dans le rapport Pékin-Washington, ce sera un bras de fer permanent pour savoir qui est le patron. La rivalité, elle est là, elle est appelée à durer, elle sera très dure.
Voilà, merci Philippe Moreau de Farge de cet éclairage donc sur le dossier Google et sur les relations donc entre les deux grands, on pourrait dire, comme on disait, les deux super grands.
Exactement.
À propos de l'Union soviétique et de Washington, des États-Unis. Et donc merci Philippe, on peut vous réécouter donc pendant 6 mois sur le site franceculture.com et également télécharger le jour même l'émission. Et demain, Marc, nous partons pour un pays d'ailleurs récent, puisqu'il a été créé en 94, l'Érythrée, et à propos du raidissement de cet état dit perturbateur. Et l'invité d'Éric Laurent sera Roland Marchal.
Merci Thierry, à demain.
À demain.